Radio Okapi.
Merci de nous rejoindre pour votre journal du soir. À cette heure-ci, nous faisons le point sur l'essentiel de l'actualité, de fait vérifier une information fiable et complète recueillie par nos équipes sur le terrain. Place maintenant à votre journal de 18h, l'information qui vous accompagne en toute confiance. Béni se lève pour une paix durable. Un forum provincial dessine une nouvelle feuille de route. Opération renforcée, riposte musclée contre les ADF et appel urgent à un soutien international accru. Kissenso, frappé par un drame qui dépasse l'entendement. 4 jours après le fait, la police découvre une partie du corps de la victime au domicile familial. Le principal suspect, son fils, est désormais en détention tandis que l'enquête s'attache à reconstituer le déroulé de cette tragédie qui secoue tout un quartier. Maniema, face à la déforestation, cap sur les solutions durables, invite ce soir Manon Taingi, directeur technique de la solution durable Congo ASBL, présente le programme Tchabodou et la fabrication des foyers améliorés Salamakala, un projet déployé dans 10 villages conçus pour réduire la pression sur le forêt et améliorer le quotidien des ménages. On ouvre ce journal avec un souffle d'espoir mêlé à l'urgence qui traverse encore le Nord Kivu, à Beni, où chaque avancée sécuritaire compte pour des milliers de familles. La province s'est exprimée d'une seule voix. Mettre fin aux exactions des ADF n'est plus seulement une priorité, c'est une nécessité vitale. Clôturée hier dans cette ville qui abrite provisoirement les institutions provinciales, le forum consacré à la menace ADF a abouti à une série d'engagements fort, un moment chargé d'émotions où les participants ont salué les efforts des FARDC appuyés par la MONUSCO et l'armée ougandaise tout en appelant à intensifier les opérations conjointes pour tourner définitivement la page de la peur. Les recommandations adressées au gouvernement congolais, à la MONUSCO, à Kampala et à la communauté internationale portent l'espoir d'une population qui aspire à retrouver sa tranquillité, sa dignité, sa vie. Les grandes lignes du communiqué final porteuses de cet élan collectif sont à découvrir dans ce papier de Martial Papimukeba, un récit mis en voix par Marc Marofimbo.
Les participants ont salué les efforts des FARDC avec l'appui de la MONUSCO et de l'armée ougandaise UPDF. Ils ont souligné l'importance du partage à temps réel des informations par la population, appelant également à cesser toute attaque contre la MONUSCO et à renforcer la confiance entre acteurs étatiques et non étatiques. Les leaders communautaires doivent collaborer avec les FARDC, ne pas soutenir les ADF, lutter contre la désinformation, promouvoir un usage responsable des réseaux sociaux et appuyer les opérations conjointes. Au niveau provincial, le forum recommande un plan de lutte contre les ADF, la création d'une task force antiterroriste et d'une cellule de lutte contre la désinformation, ainsi que l'organisation d'audiences pour les enfants ex-otages afin d'éviter leur apatridie. Les FARDC sont invités à exploiter les dénonciations en protégeant les sources, à poursuivre la traque avec leurs partenaires et à communiquer après chaque opération. La MONUSCO doit renforcer la sensibilisation autour de son mandat, appliquer la résolution 2808 et soutenir les initiatives locales contre l'extrémisme violent. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Et justement, dans la foulée de ces engagements pris à Beni, plusieurs voix se sont élevées autour du forum provincial consacré à la problématique des ADF clôturé hier dans ce chef-lieu provisoire du Nord Kivu. Plusieurs participants parlent désormais d'un véritable nouveau départ dans la lutte contre ce groupe armé affilié à l'État islamique. Selon eux, ces assises ont permis aux différentes parties prenantes d'atteindre une compréhension commune et plus claire de la menace ADF, responsable depuis plus de 10 ans de massacres des civils au Nord Kivu et en Ituri. Un pas important qui, espère-t-il, ouvre enfin la voie à une riposte plus coordonnée, plus efficace. Un éclairage apporté ici par Martial Papimukeba.
Thomas Dakemuti, acteur de la société civile et ancien président de cette structure au Nord Kivu, estime que cette compréhension partagée du phénomène ADF favorisera la conjugaison des efforts dans la lutte contre ces groupes armés.
Aujourd'hui, tout le monde est conscient que les ADF existent et que c'est un mouvement terroriste avec l'appui de l'État islamique. C'est déjà un premier pas. Le deuxième pas, c'est que on a réuni tout le monde et tout le monde vient de comprendre qu'il faut se mettre ensemble pour lutter contre ce fléau.
Même son des cloches du côté du vice-président de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale. Carly Nzanzoukasivita estime toutefois que la lutte contre les ADF doit être érigée en priorité nationale.
Tout le monde a compris que l'ADF c'est un danger pour la République. Avec la compréhension que nous avons nous tous sur la thématique ADF, nous nous rapprochons pour que demain les terroristes ADF soient vaincus sur notre espace. Que la question de l'ADF soit aussi considérée comme toutes les priorités nationales. Nous avons la guerre de l'agression, mais aussi nous avons les ADF qui nous tuent chaque jour.
Place maintenant aux actions concrètes dans la lutte contre les ADF. Béni, Martial Papimoukeba, Radio Okapi.
On reste dans le registre sécuritaire, cette fois en Ituri, où des nouveaux éléments nous parviennent du terrain. À Sessa, une localité située à 18 km de Komanda, dans le territoire d'Irumu, 6 personnes ont été enlevées lors d'une incursion attribuée aux rebelles ADF dans la nuit de mardi à mercredi, rapporte des sources locales. Jusqu'à ce mercredi matin, les familles étaient toujours sans nouvelles de leurs proches, selon un activiste de droits de l'homme joint par Radio Okapi. D'après lui, les assaillants ont d'abord ciblé une position des FARDC avant de poursuivre leur progression en direction des habitations, provoquant la fuite des populations. En réaction, les forces coalisées FARDC armées ougandaises ont lancé une opération de riposte contre les assaillants. Aucun bilan n'était encore disponible à ces stades. Dans la journée, certains villageois qui s'étaient réfugiés dans la forêt pour échapper à l'attaque ont commencé à regagner leur maison timidement. Pour refermer ce chapitre sécuritaire, direction le Nord Kivu, où les affrontements se sont de nouveau intensifiés ce jeudi dans le territoire de Masisi. Les combats opposant les rebelles AFC M23 aux combattants Wazalendo alliés au FARDC se sont poursuivis dans plusieurs localités. Selon des sources locales, les échanges des tirs se concentrent autour des Katovu, Machaki et Luke, des villages pris dans une spirale de violence. On évoque déjà au moins 4 civils tués, un déplacement massif des populations contraintes d'abandonner leur foyer face à la progression des hostilités. Les précisions avec vous, Kanish Mukongo.
De nombreuses sources décrivent une situation confuse dans les territoires de Masisi, alors que les coalitions Wazalendo qui appuyaient l'armée congolaise venaient de reprendre plusieurs villages. Une contre-offensive de l'AFC M23 est signalée depuis 2 jours pour repousser ses avancées. Mercredi, les rebelles auraient repris Kaniro ainsi que Kasseni et Katobotobo dans le groupement de Kibabi Premier. Ce jeudi matin, les combats se sont intensifiés à Kotoyu, à seulement 6 km du chef-lieu du secteur de Katoyi, reconquis la semaine dernière par les Wazalendo du groupe Pareco. D'autres affrontements sont signalés dans le village de Machaki, près de Kazinga, groupement de Yamaboko Premier ainsi qu'à Kibande et Luke le long de l'axe Mahanga. Cette recrudescence d'hostilité accentue les inquiétudes au sein des populations locales. Selon nos sources, les habitants de Mahanga qui fuyaient les combats mercredi seraient tombés dans une embuscade à Kasunja. Au moins 80 vaches ont été emportées et 3 bergers tués. En représailles, les éléments de l'AFC M23 auraient abattu un jeune du milieu et enlevé un autre, ajoute le même source.
Et dans la suite de ce journal, un fait divers qui a profondément bouleversé la commune de Kisenso à Kinshasa, un drame d'une rare brutalité s'y est produit. Un homme d'une 30aine d'années aurait tué sa propre mère dans des circonstances particulièrement troublantes avant de poser un acte qui dépasse l'entendement. Le fait remonte à 4 jours, mais l'horreur est apparue au grand jour hier mercredi lors de l'intervention des services de sécurité. Selon le bourgmestre de la commune Godet actuel, une partie du corps de la victime a été retrouvée dans un congélateur au domicile familial. Le suspect a été immédiatement arrêté et se trouve actuellement détenu dans un cachot de la police nationale congolaise. Une enquête est en cours pour comprendre ce qui a pu mener à un tel passage à l'acte et reconstituer précisément le déroulé du drame qui laisse toute une communauté sous les chocs. On écoute à présent le bourgmestre de Kisenso, Godet actuel, au micro de Nancy Antambo.
Le jeune homme dit qu'il avait vendu sa parcelle l'a été refoulé de l'Europe. Il fait savoir que il avait vendu sa parcelle. Il a donné l'argent à sa mère. Et chaque fois qu'il demande l'argent, maman ne donne pas. Conséquence, il a tué sa mère. Après l'avoir tué, il a dépiécé en morceaux. Une bonne partie de la chair a été grillée. Et comme il y avait beaucoup de chair, une partie l'a mis dans le congélateur. Il a commencé lui-même à consommer. Comme il y avait assez de chair, il n'y avait pas de courant, il y a eu la pourriture. Et c'est quand les voisins ont senti cette odeur, on nous a appelés, nous sommes arrivés, on a cassé la porte, dans leur combat, on est tué à l'intérieur, et la tête, pratiquement le tronc dans le congélateur, et lui-même s'était caché en bas avec une machette qu'on a eu, et il est maintenant au cachot. Ça, c'est un drame. Le drame n'est pas encouragé. Voilà pourquoi tout ce jour organisé l'audience forelle. Comme je sois connaître.
Dans l'actualité du Kasaï central, un nouveau drame a eu une fois de plus endeuillé le village de Mwenyambulu dans le secteur de Luita, territoire de Luisa. Hier mercredi, une fillette de 11 ans a été tuée par un hippopotame un mois seulement après la mort d'une femme dans des circonstances similaires dans ce même village. Selon plusieurs sources locales, des hippopotames quittent régulièrement les eaux de la rivière Kasaï pour s'aventurer dans la communauté, plongeant les habitants dans la peur et l'inquiétude. Ce dernier appelle les autorités à intervenir de toute urgence pour mettre fin à cette situation devenue particulièrement dangereuse. Pour mieux cerner le fait, écoutons le reportage réalisé par André Katenenga Lamoulomé.
Le drame s'est produit très tôt mercredi matin. La fillette était sortie à l'extérieur lorsque l'animal est soudainement apparu et l'a attaqué. Léon Mounanamouyumba, infirmier au village de Mwenyambulu, revient sur le fait.
L'hippopotame a mangé une jeune fille à la maison. L'enfant est sorti pour se soulager. Lorsqu'elle se soulageait, elle était distraite. L'hippopotame est venu vite. Comme elle était en distraction, l'hippopotame a récupéré. Il a mangé la tête, les bras, l'a coupé d'autres parties. Il a laissé et l'hippopotame est parti.
Il y a un mois, la nouvelle société civile du peuple du territoire de Luisa avait déjà alerté sur la présence des trois hippopotames dans la zone. Depuis, la population vit dans la crainte permanente. Les habitants demandent aux services de l'État chargés de la gestion et de la protection de la faune sauvage d'agir de toute urgence afin d'éviter de nouveaux drames. Kananga, André Katindenga Lamoulumé, Radio Kapi.
Dans la province du Haut-Katanga, une page se tourne pour le zoo de Lubumbashi. Le partenariat entre l'Institut congolais pour la conservation de la nature ICCN et l'association Les Amis du zoo de Lubumbashi Azlou s'est officiellement achevé ce mardi. Selon plusieurs sources, cette collaboration vieille de 15 ans se termine dans un climat des tensions marquées par des divergences persistantes entre les deux parties. Au-delà de la rupture, c'est aussi l'avenir du jardin zoologique de Lubumbashi, l'un des rares encore fonctionnels en RDC, qui suscite des interrogations. Paulin Munanga revient sur les contours de ce partenariat et sur l'importance stratégique de ce site pour la conservation de la faune.
Le partenariat a été signé le 24 février 2011 entre l'ICCN et l'Azulu. Dans ce partenariat, l'Azulu couvrait notamment toutes les dépenses liées à l'entretien du zoo, les soins des animaux ainsi que l'alimentation des carnivores. Ce partenariat arrive à terme et dans son rapport, l'ICCN juge non satisfaisante cette collaboration. Il dénonce un manque de transparence dans la planification et l'exécution des activités, rapporte certaines sources. La fin de ce partenariat pourrait mettre en difficulté les zoos de Lubumbashi pour sa gestion, estime une certaine opinion. Docteur Jean-Claude Binemo, médecin vétérinaire du zoo de Lubumbashi, revient sur l'importance de ces jardins zoologiques.
Les zoos de Lubumbashi permettent aux élèves de venir voir ou renforcer la capacité de ceux qu'ils étudient. S'ils étudient en zoologie, ils voient par exemple les parties de l'éléphant, les lions, mais ils viennent maintenant au zoo pour visualiser ce qu'ils ont étudié. Les zoos de Lubumbashi aident aussi plusieurs chercheurs comme des étudiants. Il y a aussi, sur le plan protection, on aide aussi à sensibiliser, à montrer aux gens que non, il faut respecter la faune et la flore et de leur mettre l'idée de la protection de la nature et du respect de l'environnement.
Lubumbashi, Paulin Munanga, Radio Okapi.
Dans les territoires de Luozi au Congo central, l'inquiétude grandit face à la progression d'une maladie suspectée d'être une méningite bactérienne. Dans la zone de santé des Mangembo, l'épidémie continue de se propager. Selon le bulletin épidémiologique rendu public hier par la division provinciale de la santé, 24 cas ont déjà été enregistrés depuis le début de la flambée. 6 villages sont désormais touchés. Le point avec Nana Plurich Mambou.
Dans ces documents, les autorités sanitaires précisent que les activités de riposte sont en cours. Elles annoncent notamment la mise en place de l'équipe provinciale de gestion de l'incident et l'élaboration du plan de préparation et de réponse à l'épidémie. Cette semaine, 2 nouveaux cas ont été enregistrés sans décès, ce qui porte à 24 le nombre total de personnes touchées dans l'aire de santé de Bienga dans le secteur de la Kingi. Parmi ces 24 cas, 15 hommes et 9 femmes, 9 décès ont été rapportés depuis le 31 janvier. Les villages touchés sont Kinkanga, Lundu, Madimba, Kinkombo, Yambi et Kinkondibila. 13 échantillons ont été prélevés sur des cas suspects et envoyés à l'INRB. Le taux de positivité est de 42%. D'autres échantillons prélevés depuis les centres de traitement des méningites de Bienga viennent également d'être acheminés. La maladie se manifeste par de fortes céphalées, suivies parfois de pertes de connaissances, et peut évoluer rapidement vers les décès. Matadi, Nana Plurich Mambou, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Kenya, un homme soupçonné d'être au cœur d'un vaste réseau de traite humaine vers la Russie a été inculpé ce 26 février à Nairobi. Il s'agit de Festus Arasa Omwamba, présenté par les enquêteurs comme l'un des principaux organisateurs d'un système ayant conduit plus de 1000 Kenyans à se retrouver souvent à leur insu sur les lignes de front en Ukraine. Selon le parquet, Festus Omwamba est accusé d'avoir trafiqué 25 personnes l'an dernier via une agence installée à Nairobi et créée en 2024 non reconnue par l'autorité nationale de l'emploi. Il promettait à ses candidats des salaires alléchants jusqu'à 350 000 shillings kenyans par mois, soit environ 2300 euros et de primes pouvant atteindre 1 million de shillings, près de 6 250 euros. Beaucoup pensaient partir pour des emplois, des sécurités ou des gardiennages, mais une fois enrichis, plusieurs d'entre eux affirment avoir été privés de leur documents et envoyés directement sur le front ukrainien après donc un bref entraînement militaire selon les autorités kenyanes. Parmi ces recrues, 89 sont encore au front, 39 hospitalisés, 28 portés disparus et au moins un décès a été confirmé.
L'invité.
Notre invité aujourd'hui, c'est Mano Tanyingi, directeur technique des solutions durables Congo ASBL. Dans le cadre du projet Chabodou, cette organisation s'engage activement dans la lutte contre la déforestation au Maniema en fabriquant des foyers améliorés baptisés Salamakala. La première phase du projet a déjà permis de distribuer 2000 foyers améliorés aux ménages de 10 villages repartis dans les territoires de Kailo, Pangi, Kibombo et Kasongo. Une initiative portée par un financement de GIZ, l'agence officielle de développement de l'Allemagne, et qui vise à réduire la pression sur les ressources forestières tout en améliorant les conditions de vie des communautés locales. Pour mieux comprendre la portée et les ambitions de ce projet, Florence Kizalunga reçoit Mano Tanyingi. Suivez.
Monsieur Mano Tanyingi, bonjour.
Bonjour madame.
Solution durable Congo, aujourd'hui vous lancez la distribution des foyers améliorés dans la province du Maniema.
Merci beaucoup, nous sommes une structure locale qui comprend les besoins de la communauté locale. Comme vous savez, la plupart de nos communautés vivent en milieu rural et dans les villages. Le seul moyen de cuisson pour eux, c'est les foyers à 3 pieds. Nous avons amené une solution fabriquée localement, assemblée ici à Kindu, pour pouvoir résoudre ces problèmes, réduire la consommation du bois, donc la déforestation et la consommation du bois, en même temps en assurant une combustion propre et vraiment efficace avec un foyer adapté.
Alors, votre projet vise combien de ménages pour distribuer ces foyers améliorés?
Nous ciblons dans un premier temps 2000 ménages. C'est la limitation que nous avons avec le financement de notre partenaire, la GIZ. Nous espérons que dans les jours à venir, ce nombre peut être augmenté et que nous pouvons trouver des solutions complémentaires à cet appui pour pouvoir amener davantage de foyers au Maniema. Nous pensons notamment à la mise en place d'un projet de financement à crédit carbone. carbone avec un suivi des foyers qui sont déjà dans la région pour voir comment progressivement ajouter ne serait-ce que des foyers additionnels pour des ménages qui n'ont pas eu la chance d'en bénéficier.
Kindu n'est pas Maniema. Maniema a 7 territoires. Vous œuvrez dans combien de territoires?
Cette préoccupation a été exprimée par les gouvernements provinciaux. Nous allons discuter encore avec notre partenaire, la GIZ, pour voir dans quelle mesure, dans le cadre des projets charbon du bois durable, s'il peut y avoir des extensions et permettre aussi l'ajout des foyers à distribuer. Sinon, nous ne croisons pas les bras. Nous proposons à notre partenaire et au gouvernement local de considérer aussi la possibilité d'amener des travaux dans le sens de la production de crédit carbone ici, en réduisant la pollution pour pouvoir générer des ressources qui peuvent nous permettre d'ajouter des foyers dans les communautés locales.
Les foyers améliorés sont beaucoup plus fabriqués des différents modèles dans la ville de Kindu, tout comme dans la province d'Imanima. Quelle est l'innovation que vous amenez, vous apportez dans votre foyer amélioré?
Comme je disais, notre foyer corrige les pratiques traditionnelles en rendant la cuisine traditionnelle dans les villages modernes, avec un foyer qui est gazéificateur, qui utilise en fait les gaz qui contient dans les bois pour pouvoir faire la cuisson. Et quand vous observez ces foyers-là, ils se comportent pratiquement comme un réchaud à gaz. Donc l'effet est bruyante et la combustion est très efficace et très courte. Et même la qualité des aliments préparés est supérieure à ceux qui sont cuisinés normalement avec les bois ou avec le charbon. Donc c'est une solution qui répond vraiment à des pratiques culturelles qui attachent encore nos communautés au bois par rapport à sa facilité et sa non-transformation avant l'utilisation comme combustible des cuissons.
Vous luttez contre la déforestation, mais vous apportez une solution, un foyer amélioré qui utilise encore des bois. Comment expliquer?
Oui, nous utilisons les bois, mais les foyers ici ont l'avantage de pouvoir consommer moins de bois. Et non seulement la consommation de bois est réduite à l'excès, je peux le dire, mais il permet de récupérer 30% de ces bois-là sous forme de charbon de bois qui peut être récupéré et utilisé pour d'autres besoins domestiques ou mis sur le marché pour permettre de donner des ressources aux ménagères.
Après la distribution de ces 2000 foyers, qu'est-ce qui suivra dans votre projet?
Nous prévoyons déjà dès la semaine prochaine entamer avec les transports de foyers améliorés vers les villages où ils seront distribués et aussi en même temps lancer le programme de plantation des arbres pour les différents pépinières que nous avons installés dans ces villages. Donc il faut souligner ici que chacun des villages a déjà une pépinière avec beaucoup d'arbres plantés et nous pensons que d'ici la fin de la saison culturelle, nous aurons planté un minimum de 30 000 hectares.
Vous avez accompagné la communauté pour la fabrication de ces foyers améliorés. Et quel est votre accompagnement qui suivra après?
Nous les accompagnons aussi dans le développement des activités génératrices de recettes. Pour votre rappel, les prix, les foyers vendus à 15 000 francs et les produits de ces ventes-là restent au niveau de la communauté. Une partie des fonds va servir à payer les frais de transport, mais aussi à pouvoir mettre à côté des fonds pour investissement sur des activités de développement qui vont continuer à générer des recettes et appuyer l'économie locale de ces villages-là. Donc, par village, comme nous avons planifié une moyenne de 200 foyers, donc vous avez pratiquement 3 millions de francs congolais qui vont générer.
Votre vision, c'est pour atteindre quoi?
Notre vision, c'est avoir l'environnement de la RDC protégé, notamment les écosystèmes forestiers où la pression est énorme.
Mano Taingi, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, madame.
Remercions chaleureusement Mano Taingi, directeur technique des solutions durables Congo ASBL, pour avoir été avec nous aujourd'hui. Il nous a présenté le programme Tchaboudou et le foyer amélioré Salamakala, une initiative soutenue par la GIZ, l'agence officielle de développement de l'Allemagne, et déjà mise en œuvre dans plusieurs territoires du Maniema pour lutter contre la déforestation. Merci d'avoir suivi votre journal de 18h sur Radio Capi, toujours au service d'une information fiable et sérieuse. À la mise en onde du Donné Nyangassa, à la coordination Élisée Chikota, à la supervision Alain Rung et à la présentation Gisèle Cage. Vous pouvez réécouter ce journal en podcast à tout moment. Et pour des informations encore plus détaillées, inclusives et enrichies, rendez-vous sur nos plateformes numériques ainsi que sur notre site web www.radiocapi.net. Très belle soirée en compagnie de Radio Capi, la radio de la paix.